voici donc la dernière table ronde, je vous rassure. Alors, comme l'a dit, comme vient de le dire Michel Le Taillantaire, il y a eu un problème hier. Guy Bouguet, qui est le président de l'association France Lymphome Espoir, est alité et ne pouvait pas se rendre ce matin à la réunion. Simplement, il a eu la gentillesse de m'envoyer ses slides. Il m'a indiqué les points sur lesquels il souhaitait que nous insistions. Et donc, j'ai la redoutable tâche de vous présenter le topo de Guy Bouguet, qui, je vous rappelle, est le président de cette association. Il m'a également demandé de rappeler, moi j'y suis allé, d'aller sur le site France Lymphome Espoir, qui est très bien fait. Et il va vous présenter, je vais vous présenter donc moi, dans les minutes qui viennent, dans les secondes qui viennent, son topo. Alors, un premier point sur lequel je voudrais insister, parce que, est-ce qu'on peut revenir sur la slide précédente ? C'est le titre. Le titre, pour moi, est très important, puisque je l'ai découvert hier en recevant son mail. C'est l'expérience des patients et des proches. Car ce qui est important pour le problème de ces personnes souffrant de lymphome, c'est l'accompagnement. Et vous allez voir dans les slides qui suivent qu'il accorde une place très importante à l'accompagnement des patients, parce qu'il y a énormément de transport, il y a énormément d'angoisse, et bien évidemment, toutes les questions qu'on peut se poser en tant que patient. Et je tiens à titre personnel à remercier les organisateurs, car aujourd'hui, avec ce titre, qui est donc l'accès au quartier salle en ordre de marche, eh bien, il était incontournable de donner la parole aux patients. Puisque maintenant, on a ce recul. Ces tables rondes existaient déjà l'année passée. Et là, cette année, on peut écouter ce que disent les patients. Alors, je vais être le porteur de ce message. Donc, si on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Très simplement, sur le site France Lymphome Espoir, il y a un questionnaire. Ils ont demandé à leurs adhérents et aux accompagnants, aux proches, donc, de répondre à ce questionnaire. Attendez, allez pas si vite, revenons un petit peu en arrière, simplement, pour rappeler simplement quel était le profil des patients. Vous voyez, donc, la population, ça correspond tout à fait à ce qui a été dit par les conférenciers précédents. Donc, les points qui posent problème, bien évidemment, c'est la qualité de vie des patients et de leur famille. Ça, c'est un point sur lequel, au téléphone, il a été vraiment très clair. C'est un point sur lequel il fallait insister. Et donc, je transmets ce message qui, moi aussi, je ne dis pas qu'il m'a bouleversé, ce serait excessif, mais qui m'a pris vraiment parce que c'est un message qu'il veut faire passer aussi bien aux autorités qu'aux industriels, qu'au corps médical et bien sûr à tout le personnel de l'hôpital. Et donc, ce qu'il notait aussi, et là, je tiens à attirer votre attention là-dessus, c'est que dans cette association, il voit déjà des rechutes après Cartesel. Il a bien insisté aussi sur le fait qu'il n'était pas question pour lui et pour l'association de tempérer ou de diminuer l'enthousiasme que suscitent les Cartesel. On a tous entendu ça dans les exposés précédents. Mais lui, en tant que patient, il dit « Nous constatons déjà des rechutes après Cartesel. » Alors, comment on va s'organiser? Moi, je vous présente ce que dit Guy Bouguet et Christian Chabanon, qui a été présenté tout à l'heure, qui donc vient de l'Institut Paoli de Calmette, Marseille, répondra à toutes ces remarques dans le cadre de son exposé qui était prévu, programmé de longue date. Donc la fièvre, fatigue, tout ça, ça a été dit. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc ça, c'est les données. Donc les attentes et les expériences, bon, c'est assez simple. Hein. Les attentes des patients, les problématiques, et bien évidemment, regardez ces points-là auxquels on ne pense pas forcément dans tous les exposés qui ont été présentés. C'est la solitude des patients. Vous allez trop vite, s'il vous plaît, revenez en arrière. Hein. Donc, vous voyez, transparent, merci. Enfin, la slide précédente, pardon. Merci, Thomas. Hein. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, et notamment, il y a des éléments psychologiques à prendre en compte et qui, à ma connaissance, n'ont pas été relevés par les intervenants précédents. Et je pense pouvoir porter le message que donc faisait Guy Bouguet. Il y a dans cette salle des représentants des patients. J'espère que je ne les déçois pas en reprenant ces éléments qui me paraissent fondamentaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les problèmes, ben alors, c'est tout ce qui a été dit, en fait, mais que ressentent les patients? C'est une chose en tant que praticien, c'est autre chose en tant que patient, bien évidemment. Et donc, la toxicité, s'il vous plaît, merci. La toxicité, l'annonce de la mauvaise nouvelle, par qui? Et là, il pose la question, que vient faire le médecin généraliste là-dedans? Là, j'avoue, personnellement, ben, je n'ai pas la réponse. Hein, je me sens d'abord juriste. Et là, je ne vois pas très bien ce que l'on peut dire. Mais c'est Christian qui va prendre le relais. Le suivi psychologique au début du traitement, là aussi, c'est important. La fatigue liée au traitement, ça avait été soulevé. Et tous ces éléments-là, bien sûr, sont à prendre en compte. Et encore une fois, c'était le souhait des organisateurs, donner la parole aux patients. Et donc, je me fais un peu le vecteur de cela. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Là, il faut se pencher un peu pour voir. Mais bien évidemment, c'est être rassuré et connaître les résultats, connaître les progrès. Et tout ce que j'ai entendu, bien sûr, était positif. Mais il y a, bien sûr, connaître les effets indésirables à long terme, les chances de survie à 5 ans. Et tout ça, c'est dans le message. C'est l'information du patient qui fait partie du rôle du médecin. C'est même sur le plan purement juridique. Ça fait partie de ses obligations du corps médical. Et ça me paraissait incontournable, donc, de reprendre ces points dans son exposé. Information, transparence, ce sont des éléments clés pour les patients. Et encore une fois, c'était incontournable. Et Christian, là-dessus, je sais qu'il a tous les mots qu'il faut pour rebondir. Et donc, la suite, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'était merci. Donc, je voulais simplement, donc, moi aussi, présenter tous mes voeux de bon établissement à Guy Bouguet. Et on va passer la parole tout de suite, si vous voulez bien, à Christian, qui va donc, dans le cadre de son exposé, répondre aux éléments qui ont été relevés par Guy Bouguet dans son topo.
Donc, merci Patrick. Alors, je ne vais pas être seul à répondre. Catherine Rioufol et Cécile Rabian vont m'aider. Mais effectivement, on va essayer de se servir de ces trois présentations pour apporter certains éléments de réponse aux questions qu'a listées Guy Bouguet sur son diaporama. La diapositive suivante. Alors, je suis un peu surpris puisque je n'ai pas l'impression d'avoir vu les liens d'intérêt des précédents intervenants, peut-être. Enfin, en tout cas, deux choses que je voudrais souligner, enfin trois même. La première, c'est que l'écart ICEL se crée de facto un lien d'intérêt majeur entre le monde académique et le monde industriel, puisque en l'état actuel des technologies, ces deux mondes collaborent sur la production des médicaments. La seconde, c'est que quand je travaille avec l'industrie aujourd'hui, c'est assez souvent pour partager un certain nombre de connaissances et former les équipes. Il y a un énorme besoin de formation qui concerne tous les partenaires impliqués, y compris les industriels, sur ces nouvelles thérapies. Et on découvre en fait en marchant un certain nombre de problématiques sur lesquelles il faut que les gens se forment. Donc le message aussi auprès des universités auxquelles j'appartiens, c'est qu'il faut penser à faire des formations sur ces nouvelles catégories de thérapeutiques parce qu'on en a besoin pour toutes les catégories de personnel qui interviennent dans la prise en charge des malades. Et puis je suis membre du conseil d'administration d'une société européenne qui s'appelle le BMT et ça a une relevance par rapport à la notion de registre et aux décisions qui ont été prises en France. Donc beware of what I will tell you. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais juste répéter des choses. Alors, Jérôme Larguero a fait mention de deux décrets. En réalité, il s'agit d'arrêtés. Il y a deux arrêtés qui ont été publiés cette année et qui encadrent les conditions d'administration des CAR-T cells autorisés, donc pour l'instant deux médicaments, par les hôpitaux français. Il y a un arrêté du mois de mars 2019 qui a été très rapidement révisé. Donc la dernière version date du 8 août 2019 parce que les termes initiaux de l'arrêté étaient prêtés à confusion et créaient des contraintes pour les hôpitaux qui étaient, on va dire, irréalistes. Et une version donc très améliorée dans sa lisibilité et l'implémentation des exigences qui y sont listées a été publiée en août. J'attire votre attention sur la terminologie un peu particulière. C'est un arrêté qui limite l'autorisation. Je suis très étonné qu'aucun patient n'ait jamais réagi à ça. Habituellement, les arrêtés, les décrets, ça définit les conditions permettant l'autorisation d'eux. Là, on limite l'autorisation. Donc la puissance publique, pour l'instant, cherche, j'allais dire, à contenir et à contrôler quand même l'administration des carticelles, si on ne peut pas s'empêcher de penser que ça représente un des outils à sa disposition pour effectivement contrôler un petit peu l'administration de ces médicaments dont je vous rappelle qu'ils sont extrêmement chers puisqu'on est dans des prix qui sont aux alentours de 300 à 350 000 euros selon les circonstances. Il y a un deuxième arrêté qui subordonne donc le paiement de ces médicaments aux hôpitaux qui les administrent au reporting des informations sur le suivi des malades. Bien entendu, la puissance publique et en particulier la HAS, la DGS, le ministère de la Santé, veulent bien payer très cher, mais à une condition, c'est d'évaluer en réel. Alors les laboratoires nous apportent aujourd'hui des données, en s'appuyant en particulier donc, sur ce qu'on a vu ce matin, le registre du CBMTR, mais dans les choses qui ne restent pas complètement claires, c'est quels sont les bons critères de sélection des malades. Très clairement, les malades très graves, très rapidement progressifs, aujourd'hui ne bénéficient pas beaucoup de ces technologies, parce que le délai de mise à disposition du médicament ne permet pas de maintenir les patients en vie dans cette période et dans ce délai. La suivante, s'il vous plaît. On peut passer rapidement parce que c'est juste la reproduction de l'arrêté. La suivante également, vous pouvez passer. C'est très bon ça, si vous avez des troubles du sommeil, lire un petit paragraphe de ces textes-là. Le reporting, donc il y a un texte technique de l'ATIH qui explique comment les données sur les patients traités par CAR T-cells doivent être reportées. Et encore une fois, j'insiste, vous ne rapportez pas, l'hôpital n'est pas payé. Donc à mon avis, votre directeur d'hôpital, il va vite vous donner le quart de temps de technicien de recherche clinique nécessaire à remplir les données si vous lui expliquez que les 25 CAR T-cells que vous avez fait dans l'année, ils sont pas payés, ils seront pas remboursés. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les hôpitaux qui aujourd'hui sont capables d'administrer ces traitements ont, si on se place dans une brève histoire des CAR T-cells en France, en réalité, été sélectionnés par les laboratoires pharmaceutiques Novartis pour Kymriah et Kite Gilead pour Yescarta, puisque la publication des textes que je viens de mentionner est en réalité postérieure de plusieurs mois et pour certains de plusieurs années au démarrage de l'activité clinique dans ces hôpitaux. Donc la puissance publique reprend un peu l'initiative, mais n'a néanmoins fait qu'entériner une situation existante, sauf dans de rares cas particuliers. Les hôpitaux qualifient, les laboratoires pharmaceutiques, veuillez m'excuser, qualifient les hôpitaux sur la base d'un audit documentaire, d'une ou plusieurs inspections sur site et de réaudits périodiques. Ça a déjà été mentionné par Jérôme Larguero. Et la base, on va dire, réglementaire et opérationnelle de cette démarche, c'est parce que les hôpitaux se retrouvent ici dans une posture un peu particulière pour une des activités, c'est-à-dire qu'ils deviennent les fournisseurs de l'industrie pharmaceutique pour la matière cellulaire de départ qui va permettre la production du médicament, et que si on lit les règles de bonne pratique de fabrication du médicament, ça ne se limite pas à être dans du A dans B, hein, c'est-à-dire le contrôle de l'environnement dans lequel on le travaille, mais c'est aussi toute une démarche qualité extrêmement globale et extensive qui permet entre autres de s'assurer de la qualité de la matière première à partir duquel le procédé de production démarre. Comme l'a dit Jérôme aussi précédemment, c'est extrêmement chronophage pour les hôpitaux. C'est une charge de travail qui a été assurée très souvent à moyen constant ou partiellement augmenté, et à laquelle il va falloir s'adapter dans le futur, sauf si un laboratoire nous sort des CAR-T anti-burnout qui nous seront éventuellement utiles. La suivante, s'il vous plaît. Alors, le maillage territorial, ça c'est important, se complète progressivement. Effectivement, l'activité a historiquement commencé en France, essentiellement à Paris et à Lyon, avec la participation aux essais cliniques des deux laboratoires qui ont obtenu par la suite une autorisation de mise sur le marché. Et progressivement, le maillage territorial se complète, à la fois avec des hôpitaux supplémentaires qui participent à des essais cliniques, on l'a entendu précédemment, et des hôpitaux donc qui vont être progressivement autorisés à administrer des produits qui ont déjà une AMM et strictement dans le respect des AMM. Le maillage territorial actuellement fait que, grosso modo, par grande interrégion française, il y a un centre, éventuellement deux dans certaines, qui permettent l'accès. Ce qui veut dire que, du point de vue des patients et des associations de patients, certes, à peu près tout le monde peut avoir accès, mais pas forcément dans des conditions extrêmement faciles. Et ça ramène à une des questions de Guy Bouquet. Si je prends l'exemple de ma région, Marseille, le seul hôpital qui offre l'accès à des patients adultes, c'est donc l'Institut Paul-Hiquelmette à Marseille. Les Niçois, à ce jour, doivent se déplacer pour venir jusqu'à Marseille. Et en réalité, les communications entre Marseille et Nice sont pas très faciles compte tenu du réseau de transport en commun. Par exemple, c'est essentiellement par la route et c'est pas forcément très simple. C'est encore plus compliqué si vous habitez dans les Alpes-Maritimes, au fond d'une des très belles vallées des Alpes du Sud. Mais ça rajoute encore une heure ou une heure et demie de route sur des chemins qui ne sont pas toujours très praticables, en particulier l'hiver. Donc ça pose le problème de faire déplacer les malades à de multiples reprises, de les faire rester à proximité immédiate de l'hôpital où ils ont reçu leur traitement. On considère que pendant les deux premiers mois, à peu près après le traitement, ils vont pouvoir quitter l'hôpital, mais il faut qu'ils ne restent pas trop loin pour que si une complication retardée apparaît, ils puissent pouvoir être repris en charge. En raison de la neurotoxicité, il y a certains centres qui recommandent, par exemple, que les patients ne conduisent pas pendant deux mois. Ça veut dire qu'il faut qu'un membre de la famille puisse les accompagner dans cette démarche. Donc, effectivement, on a des problèmes. Et puis, comment est-ce qu'on paye l'hébergement de l'entourage pendant le temps où le malade, lui, est hospitalisé et reçoit son traitement et on surveille les complications éventuelles. La suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est toujours un extrait de la notice technique de la TIH que je vous ai montré. Cette information est contenue dans la notice technique. Elle recensait les établissements qui avaient administré des CAR T-cells au premier semestre 2019. Donc cette liste est aujourd'hui incomplète. Il y a un certain nombre d'autres hôpitaux qui ont maintenant commencé leur activité, mais vous voyez que ça se limitait exactement à 6 hôpitaux français au moment où ce texte a été publié. Et que dans cette configuration-là, on avait des grandes régions, comme la région Grand Est ou le Grand Sud-Ouest, qui n'étaient finalement pas représentées. Alors, encore une fois, les choses depuis ont démarré dans des hôpitaux dans ces régions-là. La suivante. Alors, la suivante, c'est une photo volée, enfin pas volée parce que c'était tout à fait public, mais ça vient de Gilead, ça vient de Gilead Grande-Bretagne, parce que je laisserai Mme Rabian le soin de faire l'inventaire, si je puis dire, et le panorama en France. C'est juste pour vous montrer les centres qualifiés par Gilead, donc, alors pas en Grande-Bretagne, hein, en Angleterre, et puis là, il faut être précis sur la géographie dans les circonstances actuelles, mais ça vous donne un ordre d'idée. Le nombre de centres autorisés est relativement du même ordre de grandeur pour une population du même ordre de grandeur. Donc on voit dans les grands pays européens que l'organisation est assez superposable en termes de nombre de centres qui sont capables d'administrer ces traitements par rapport à la taille de la population et de la population candidate de patients. La suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a plein de questions qui sont en suspens. Guy Bouquet en a listé quelques-unes. Il y en a qui sont très spécifiques au CAR, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus générales. L'annonce d'une mauvaise nouvelle, la rechute, la non-éligibilité pour les CAR T-cells, ça se pose de la même façon pour beaucoup d'autres traitements. Mais c'est nécessaire qu'on adapte nos discours et nos modes de communication à ces nouveaux médicaments. Les ressources supplémentaires nécessaires pour la bonne gestion du circuit des cellules et de la prise en charge des patients, deux problématiques très différentes mais qui doivent être étroitement coordonnées, on l'a déjà mentionné. Identifier l'ensemble des actes médicaux et médico-techniques nécessaires à l'administration des CAR T-cells. Ça, c'est très important. On parle du prix du médicament qui est outrageusement élevé. On ne parle pas du coût des ressources qui sont mobilisées à l'hôpital. Bien entendu, ces gens qu'il faut recruter, il faut bien leur verser des salaires. Si on les utilise pour ces tâches-là, on ne les utilise pas pour d'autres tâches, etc. Vous savez qu'aux États-Unis, on pense que le coût pour l'hôpital est à peu près du même ordre de grandeur que le coût du médicament. C'est-à-dire qu'on double en fait le coût du traitement. Les hôpitaux américains, la plupart aujourd'hui, ont fait le constat qu'ils perdaient de l'argent en donnant l'accès à des CAR T-cells. Ce qui explique qu'aux États-Unis, il y a certains retards d'accès aux CAR T-cells. Et puis, il y a une proportion très importante de malades dans des essais cliniques. Alors ça, c'est plutôt bien, parce qu'en général, on considère que c'est plutôt un élément positif. Mais ça s'explique entre autres parce que dans les essais cliniques, les surcoûts et le prix du médicament sont couverts. En France, quand on congèle des cellules, par exemple, au profit de Novartis, cet acte-là, aujourd'hui, passe par les pertes et profits. Il n'y a pas de nomenclature, il n'y a pas de modèle de paiement. Le laboratoire ne veut pas payer les hôpitaux qui assurent ces prestations-là. Et la puissance publique n'a pas prévu de modalité de paiement. La suivante, s'il vous plaît. Donc, si on essaye d'illustrer, on a un processus très chronophage, un processus croissant. La plupart des centres qui travaillent avec Gilead travaillent avec aussi Novartis et travaillent aussi avec Celgene et Janssen qui vont bientôt amener les CAR T-cells anti-myélome. Les centres de lutte contre le cancer qui sont engagés, qui sont pour l'instant assez peu nombreux, il y a essentiellement Gustave Roussy et nous à Marseille, on est sollicité par les sociétés qui développent des CAR-T ou des TCR transgéniques dans les tumeurs solides. Moi, je manage à peu près un portefeuille d'une dizaine d'essais en route ou en passe de lettre aujourd'hui. Et encore une fois, c'est une énorme quantité de travail qui mobilise enfin, moi-même, mais toute l'équipe en réalité, et de très nombreux acteurs. Ça va jusqu'aux juristes. La signature des contrats bipartites, tripartites avec les industriels sont d'une complexité absolument inouïe. Il faut être extrêmement attentif aux clauses qui sont présentes dans ces contrats industriels, sans quoi, pour vous parler vulgairement, vous vous retrouvez en slip et en chaussettes, parce que vous fournissez un service, vous n'êtes pas payé, vous n'êtes même plus propriétaire des données que vous générez. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, toutes ces questions restent effectivement en suspens. Elles revêtent une forme différente selon que vous travaillez comme salarié de l'Institut de l'établissement français du sang ou d'un hôpital. Pour l'établissement français du sang, on comprend bien que c'est effectivement critique de faire payer ses prestations, puisque lui ne touchera jamais le prix d'un séjour pour un malade. Ça n'est pas sa vocation que d'hospitaliser le malade. La suivante, s'il vous plaît. Et la croissance de l'activité, je crois que je l'ai déjà mentionné. Est-ce que j'en ai encore une ? La suivante. Oui, alors je vous ai déjà. Alors le reporting, un petit mot. Donc la France a pris une décision de confier au LISARC, donc au groupe académique sur les lymphomes, la constitution d'un registre pour les CAR-T-cells. Il existait une initiative européenne qui s'appelle le registre de l'EBMT qui avait entamé une négociation avec l'EMA, qui était arrivé à un accord avec l'EMA. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ça crée de facto un problème de duplication. Puis comme si ça ne suffisait pas, l'ATIH déjà mentionné, qui est très impatiente, on la comprend d'avoir des données, mais nous a mis un registre temporaire. Donc là, on en est sur un petit millefeuille franco-français à trois étages dont il va falloir qu'on se sorte si possible avec les honneurs, sachant que nos amis germaniques, dont la discipline ne se compare pas à la nôtre, naturellement, eux, ils ont pris une décision terminée. Et je pense que tout le monde va s'aligner derrière. La suivante, s'il vous plaît, parce qu'elle vous montre, voilà, le registre de l'EBMT fonctionne, collecte des données, les a publiées pour la première fois dans sa newsletter de septembre et va les upgrader d'une façon générale. Ça, c'est vraiment du très macro. Tous les pays en bleu foncé sont ceux où on peut avoir accès à des CAR-T. La France est un pays très en avance. Ça a été souligné, ça mérite de l'être à nouveau pour l'accès des patients français aux CAR-T-cells. Vous voyez qu'il y a des pays où on ne peut pas encore. Le Portugal, l'Irlande, pour l'instant, il n'y a pas d'activité démarrée. Bien entendu, tout ce qui est à l'est de l'Europe est un peu pénalisé par rapport à nous. Et puis, vous voyez sur la partie gauche de la diapositive que le nombre monte relativement vite, hein, puisqu'entre juillet et septembre, on a plus que doublé le nombre des patients traités. Les bleus foncés, c'est des produits commerciaux. On a le détail, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et les bleus clairs, c'est des CAR-T investigationnels, expérimentaux, soit dans le cadre d'essais cliniques à promotion académique, soit dans le cadre d'essais cliniques à promotion industrielle. La suivante, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup.
Je reprends juste le micro. Merci. Je voudrais revenir sur les questions posées par les patients. Est-ce que dans le cadre des formations des étudiants, parce que ceci avait été abordé, est-ce que vous avez aujourd'hui, je sais que ça existe dans différentes facs, mais pas toutes, justement, c'est comment créer le dialogue avec le patient, l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas évident dans toutes les facs. Et pour répondre à la question qui avait été posée tout à l'heure, est-ce que dans le cadre du cursus, ce point est abordé ?
Alors, je ne sais pas si je suis le bon interlocuteur pour répondre à ça, bien qu'étant universitaire, mais en tout cas, moi je n'organise pas formellement ce genre d'enseignement. Je crois que ça a été intégré, mais je ne sais pas combien d'heures de cours sont dédiées à ce sujet dans le cursus des étudiants en médecine, et je ne sais pas si ça a été intégré de façon systématique dans toutes les universités.
Merci. Bon, alors concrètement, je suis très honoré de passer la parole à une consoeur qui est pharmacien hospitalier à Lyon et qui va expliquer effectivement son quotidien par rapport au CAR-T-cell. C'est une sorte de synthèse de tout ce qui a été dit, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de pharmacien qui intervenait, bien qu'on les ait mentionnés beaucoup. Et donc, je suis très heureux de passer la parole.
Merci beaucoup. Effectivement, je suis également ravie de venir partager mon expérience de pharmacien. Je suis pharmacien hospitalier à Lyon, dans le centre du professeur Gilles Salle et du professeur Hervé Guéquière. Diapo. Alors, si on demande... Diapo, s'il vous plaît. Si on demande à un pharmacien de venir parler des CAR-T-cells, eh bien, c'est parce que les CAR-T-cells sont des médicaments. Alors, pour reprendre un petit peu les discussions de ce matin, je partage tout à fait les préoccupations sur les effets indésirables, dont certains peuvent être très graves, et sur toute la question sur la viabilité des cellules. Mais bien que partageant ces préoccupations en tant que pharmacien et considérant que les CAR-T-cells sont des médicaments, j'essaye quelque part de positiver en me disant que je ne connais pas de médicaments qui n'entraînent pas d'effets indésirables. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que le processus d'utilisation des CAR-T-cells en situation de vraie vie pour la problématique de la viabilité des cellules est exactement le même que celui qui a été utilisé dans les essais cliniques qui ont montré l'efficacité de ces traitements. Voilà, ça ne répond pas à toutes les questions, mais quelque part, c'est un message qui peut permettre de rassurer. Alors oui, ce sont des médicaments, et au départ, eh bien, c'est une information qu'il a fallu faire passer, puisque les cellules et les tissus issus des patients au départ ne sont pas des médicaments, et c'est seulement après avoir bénéficié d'une transformation génique que tout cela leur confère donc une activité pharmacologique, et à partir de là donc ils ont le statut de médicament et ils vont donc suivre le circuit pharmaceutique comme tous les médicaments. Diapo. Alors le circuit pharmaceutique des Carticelles dans un hôpital comme le nôtre, eh bien, il a quand même des spécificités par rapport aux autres médicaments. Premièrement sur le stockage, puisque c'est un stockage cryogénique dans de l'azote liquide à moins 196 degrés, comme vous le voyez ici dans des cuves. Ce sont des médicaments qu'il va falloir décongeler au bain-marie, et ce n'est pas très habituel. Et pour certains d'entre eux, eh bien, il y aura une étape de préparation sous une haute afflux d'air laminaire verticale. Voilà pour les quelques spécificités. Diapo. Alors, il y a deux possibilités d'organisation. Certains établissements bénéficient d'une unité de thérapie cellulaire. C'est le cas, par exemple, de l'hôpital Saint-Louis, dont a parlé Jérôme Larguero ce matin. Et puis, à Lyon, eh bien, nous ne disposons pas d'unité de thérapie cellulaire dans notre établissement. Et c'est donc la pharmacie, la PUI, pharmacie à usage intérieur, qui assure tout le circuit du médicament. Le fait de disposer d'une unité de thérapie cellulaire, je peux vous dire que ça facilite quand même grandement les choses, puisque ça va permettre à la pharmacie et à l'unité de thérapie cellulaire de travailler en bonne intelligence, de partager une expertise tout d'abord, mais également des locaux, des équipements, et ça va faire gagner beaucoup de temps. Alors, quand il n'y a pas d'unité de thérapie cellulaire, eh bien, l'hôpital va construire un local de stockage cryogénique qui sera sous responsabilité pharmaceutique. Hervé disait tout à l'heure qu'on a montré que l'hôpital public était capable de faire de grandes choses très rapidement en 2 ans. Alors moi, j'ai trouvé le temps incroyablement long. Il a fallu à peu près 10 mois pour expliquer que les Carticelles étaient des médicaments. Et ensuite, il a fallu au moins 10 mois encore pour construire le local à l'arrivée, 26 mètres carrés. Voilà. On peut stocker les Carticelles. Mais effectivement, s'il y avait une unité de thérapie cellulaire, il pourrait être stocké à l'UTC et les pharmaciens pourraient tout à fait exercer leur responsabilité par une convention. La décongélation PUI seul ou PUI avec UTC, normalement, ça ne pose pas de problème. La préparation, par chance, ces médicaments sont habituellement gérés par les pharmaciens qui travaillent en cancérologie dans les sites et qui ont donc l'habitude d'assurer la préparation des anticancéreux injectables, qui travaillent au plus près des cancérologues hospitaliers, des patients, et qui sont équipés d'installations pour fabriquer. Donc, a priori, ça ne pose pas de problème non plus. L'élimination par les DASRI aujourd'hui ne pose pas de problème. En revanche, une question reste entière, c'est celle de l'inscription au livret, du financement, et donc il faut travailler de concert avec la commission du médicament, la direction des achats, etc. Mais ça, c'est la même chose qu'il y ait une PUI toute seule ou bien une PUI avec une UTC. Diapo. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le parcours de soins Carticelles parce qu'il nous oblige à réfléchir sur de nouveaux modes d'organisation, et c'est ce qui est probablement le plus intéressant. Alors, même si ça fait un petit peu redite par rapport à ce qui a pu être dit ce matin, voilà le parcours de soins d'un patient qui va être traité sous CARTI. D'abord, il est sélectionné par un hématologue qui va, après cette sélection, proposer la stratégie thérapeutique et la faire valider par la réunion de concertation disciplinaire, donc où nous sommes associés. Et là, je pense que nous devrions travailler sur l'information patient parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Alors, les choses paraissent peut-être un petit peu plus simples parce qu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique, etc. Mais demain, dans d'autres indications, les patients seront probablement de plus en plus exigeants sur l'information, les effets indésirables, comme on l'a entendu et comme nous le fait remonter Guy Bouquet. Diapo. C'est le feu vert médical pour l'administration des Carticelles qui va déclencher le démarrage vraiment de ce circuit. Le feu vert médical, il déclenche 2 choses. D'abord, la prise de rendez-vous pour la phérèse, mais également, pour nous, pharmaciens, la commande auprès du fabricant. Là, il va effectivement s'écouler 3 bonnes semaines, parfois 4, voire un petit peu plus. Et pendant ce temps, eh bien, il pourra y avoir un feu vert médical pour la chimiothérapie de lymphodéplétion. Et là, j'attire quand même votre attention sur la chronologie des événements. Au tout début, nous faisions toujours pour gagner du temps et parce que le patient pouvait progresser pendant ce délai. Nous faisions la chimiothérapie de lymphodéplétion pour les premiers patients avant même d'avoir reçu la poche de Carticel. C'est quelque chose que nous ne faisons plus. Et il est vivement recommandé d'attendre d'avoir reçu la poche, de s'être assuré de sa conformité avant de faire la chimiothérapie de lymphodéplétion, de façon à ce qu'en cas de non-conformité de la poche, eh bien, le patient ne soit pas en attente de Carticel alors qu'il a déjà reçu la chimiothérapie de lymphodéplétion. Voilà. C'est un ajustement dans la chronologie qui me semble important de relever. En sachant qu'en cas de non-conformité majeure qui empêcherait la poche de Carticel d'être administrée, il faut aussi communiquer sur le fait que bien souvent, le laboratoire pharmaceutique a préparé plusieurs poches de Carticel et donc a à sa disposition une, deux, parfois trois poches de backup. Donc on ne communique pas assez là-dessus, mais je pense que c'est important de pouvoir en être informé, et là je me tourne vers les industriels, d'en être informé au moment où l'on reçoit la poche de Carticel, savoir combien il y a de poches de backup, de façon à pouvoir faire la meilleure prise de décision possible avec le médecin au moment où il y a un problème. Si tout va bien, donc les Carticels sont réceptionnés, la réception est conforme et ils sont administrés. Et après décongélation, donc au bain-marie par le pharmacien, nous acheminons nous-mêmes les Carties décongelées jusqu'au service de soins pour les délivrer à l'infirmière et nous restons auprès du patient avec l'infirmière pendant l'administration. Ben, pourquoi ? Eh bien, parce que tout ça pour ça, c'est une dernière chance pour le patient. Il l'a vraiment perçu comme ça. Il connaît le coût du traitement. Et eh bien, aujourd'hui, c'est le grand jour et ça va durer 10 minutes. Voilà. Donc, on reste à côté de ce patient. Et à ce moment-là, même si on ne questionne pas à ce moment-là sur sa perception, etc., bien, nous trouvons très intéressant de discuter avec lui de la perception de son traitement avant et après l'administration, parce qu'il se passe beaucoup de choses en 10 minutes, finalement. Voilà. Suit alors une période de surveillance qui peut être plus ou moins longue. Il arrive qu'il y ait des événements indésirables. On a parlé du syndrome de relargage des cytokines. Il est donc important que le pharmacien ait à disposition un stock de tocilizumab. Nous avons un stock à la pharmacie, mais également dans le service de réanimation où le patient peut être hospitalisé pour recevoir le tocilizumab. Diapo suivante. Et puis, nous allons sortir de cette période d'hospitalisation pour aller vers cette phase qui se tourne de plus en plus vers l'ambulatoire, mais où le patient est effectivement vu en consultation régulièrement, plusieurs fois par semaine, par l'hématologue. Et compte tenu du recrutement assez large de nos centres, eh bien, cela implique de revoir nos modes d'organisation, d'accueil des patients, d'accueil de l'entourage. Et c'est là toute la place des hôtels-hôpitaux, par exemple, pour faciliter les choses, les rendre plus fluides. Le pharmacien est toujours présent, mais cette fois sur de la traçabilité, comme pendant tout le parcours, et également sur l'information au premier recours, puisque le pharmacien de ville et le médecin traitant vers qui le patient va être finalement adressé en ambulatoire, eh bien, ne connaissent pas grand-chose de ces nouveaux traitements. Et donc, il est important de pouvoir assurer un suivi, une information et de communiquer. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, encore une fois, on est dans le cadre de l'urgence, de l'absence d'alternatives thérapeutiques. Demain, quand les indications se multiplieront, eh bien, je pense que ça ouvrira le débat à d'autres questions éthiques, sociétales, économiques, bien sûr. Mais on a déjà ces questions-là et je pense que c'est ce qui sera intéressant de traiter. Diapo, s'il vous plaît. Voilà, alors ce parcours, il est là également pour nous montrer à quel point, comme ça a été dit encore ce matin, la coordination à toutes les étapes de tous les acteurs est indispensable. Alors ce sont des acteurs qui étaient attendus, l'hématologue, l'infirmière de coordination qui occupe une place très importante, le pharmacien bien sûr, l'unité de thérapie cellulaire, la phérèse, etc. Mais on a vu la réanimation, la neurologie, l'imagerie. et puis d'autres acteurs avec qui il va falloir, dont il va falloir se rapprocher, l'industriel d'une façon qui est différente hein, par rapport aux autres médicaments, la commission du médicament, mais l'assurance maladie également. Et cette coordination, elle est très importante parce qu'il faut faire vite. Parce que effectivement, le patient est dans une situation d'urgence. Il y a une mise en jeu du pronostic vital et encore une fois, pas d'alternative thérapeutique. Et donc, il faut que tout soit réglé comme du papier à musique au moment où le patient est sélectionné. Donc ça passe par de l'anticipation. Et puis, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit coordonné ? Eh bien, tout simplement parce que cette matière première, elle est autologue. Il n'y a qu'une matière première. Ce médicament, c'est un médicament qui est vivant. Et s'il fallait lancer une nouvelle production, et je sais bien que c'est déjà arrivé, ça veut dire une seconde aphérèse, mais le temps a passé et on n'est vraiment pas sûr d'obtenir le même niveau de qualité des cellules avec une seconde aphérèse. Voilà. Diapo suivante. Alors, on a parlé de l'accès au CAR-T en vraie vie. Moi, je pense qu'il serait difficile de parler de l'accès au CAR-T sans parler du coût. Alors, première bonne nouvelle, certes, les CAR-T, ça représente un coût qui est important, hein, 327 000 euros, mais c'est une administration unique. Finalement, est-ce qu'on pourrait dire que ça correspond à 5 années de traitement par ibrutinib dans la LLC ou par pembrolizumab dans le cancer pulmonaire. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose comme ça ? Et est-ce que ça nous permettrait de relativiser finalement ce coût ? Je vois que vous acquiescez. Alors, deuxième bonne nouvelle, eh bien, on commence déjà à parler de seconde administration de CAR-T, d'association de CAR-T à l'ibrutinib et d'association de CAR-T au pembrolizumab ou autre anti-PD-1 et anti-PD-L1. Voilà. Donc, réellement, cette problématique de la soutenabilité financière doit encore être discuté. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être construites, paiement, financement à la performance, etc. Mais je crois qu'il faudra encore s'améliorer parce que la vraie question, c'est pendant combien de temps et pour combien de patients notre société peut-elle soutenir de tels coûts ? La question, elle est là, puisque, on l'a dit encore ce matin, les indications se multiplient dans la tumeur solide, nous les attendons, mais les indications en hématologie se multiplient déjà. Et probablement, demain, à des stades encore plus précoces de la maladie. Voilà. Diapo suivante, c'est... Voilà. Alors, je voulais quand même finir sur l'activité de notre centre à Lyon. 67 patients traités aujourd'hui, parmi eux 16 patients dans le cadre d'essais cliniques et les autres eh bien, dans le cadre des autorisations temporaires d'utilisation et de l'AMM. Voilà, je vous remercie. Il faut continuer.
Merci. Merci Catherine, bravo. Et au passage, une petite remarque d'enseignant. La slide que vous avez sur le parcours de soins CAR-T-cell est remarquable et c'est un vrai bonheur pour tous les profs. Et je pense que vous serez pillés, piratés largement. Je pense qu'elle est remarquable, tout à fait. Merci beaucoup. On passera la parole, je crois, à tous les intervenants, mais je voudrais d'abord passer la parole, bien évidemment, à Céline, pardon, Cécile Rappelon, pardon, qui va nous présenter le point de vue de l'industriel, puisque l'industriel a été cité, bien sûr, comme l'un des intervenants dans cette chaîne, et c'est tout à fait légitime, madame, que nous vous passions la parole.
Merci, bonjour à tous. Diapo, s'il vous plaît. Donc moi, effectivement, je vais me concentrer sur l'étape qui relève de notre compétence et de notre responsabilité, qui est l'étape de fabrication du CAR-T, en tout cas pour les CAR-T industriels, bien sûr. Donc je ne reviens pas sur ce circuit, mais nous, notre job aujourd'hui, hein, c'est de récupérer la poche de cellules vivantes du patient à la sortie de l'unité d'aphérèse, de la transformer en un médicament et de la livrer, donc de livrer ce médicament de retour au centre hospitalier afin qu'il puisse être réadministré au patient. Diapo. Donc moi aussi, j'ai une diapo peut-être moins jolie sur le circuit du médicament. C'est ce qu'on appelle le circuit de veine à veine, hein, puisque vous l'avez bien compris, donc ça commence par un prélèvement veineux au moment de l'aphérèse du patient et ça se termine par une perfusion intraveineuse au moment de l'administration du médicament au patient. Donc ce circuit de veine à veine, aujourd'hui en France, il dure à peu près 30 jours. Dans la vraie vie, hein, puisqu'on est, on est plus au stade des essais cliniques maintenant, on est au stade de la vraie vie, ce qui est une durée un petit peu longue encore, mais on travaille beaucoup pour améliorer cette durée. Donc ce circuit comporte de multiples étapes. Hein, c'est vraiment un circuit très complexe. Avec donc, on vient chercher la poche d'aphérèse au niveau de l'hôpital. Pour notre médicament, la poche est transportée dans un conteneur réfrigéré sur un site qui se trouve aujourd'hui à Amsterdam. Et c'est sur ce site que les cellules sont congelées. Donc, nous ne demandons pas à l'hôpital de congeler les cellules, c'est nous qui le faisons à Amsterdam. Depuis Amsterdam, ces cellules sont transportées par avion, évidemment, sur notre site de production actuel qui se trouve à Los Angeles, aux États-Unis. Et c'est sur ce site de production donc, que les cellules vont être décongelées, transformées génétiquement pour devenir des CAR-T et ensuite recongelées pour être réexpédiées à Amsterdam. Donc deuxième voyage transatlantique pour ces cellules, Amsterdam, où a lieu le contrôle qualité et la libération du lot, puisque Mme Rioufol l'a bien dit, hein, un lot pour un patient, hein, c'est un médicament très particulier, et une fois le lot libéré au niveau d'Amsterdam, donc nous livrons la poche toujours congelée, donc soit à la pharmacie, soit à l'unité de thérapie cellulaire de l'hôpital, selon l'organisation locale. Et donc, le médicament arrive à l'hôpital et passe sous la responsabilité du pharmacien de l'hôpital. La suivante. Alors, on a beaucoup parlé de qualification. Je voulais peut-être préciser, pour les gens qui sont moins au fait, en quoi ça consiste aujourd'hui, la qualification d'un centre hospitalier par un industriel. Alors, c'est vrai que c'est très original. Hein. C'est la première fois, je pense, que c'est l'industriel responsable du médicament qui va qualifier le centre. Donc, c'est quand même très particulier. Donc, il y a plusieurs étapes. Ça commence, bien sûr, par une réunion préliminaire, on va dire, hein, qui réunit tous les acteurs impliqués. Et vous l'avez vu, ils sont nombreux au sein de chaque centre pour préparer un audit qualité. Donc, cet audit qualité est réalisé par nous, industriels. Et nous avons aujourd'hui une équipe de deux auditeurs qualité dédiés à la France, hein, qui ne font que ça. Donc cet audit qualité consiste en particulier à visiter toutes les installations et les services nécessaires autour du circuit des CAR-T, à s'assurer de la traçabilité du médicament et de la bonne coordination des différents acteurs, et il y en a beaucoup. La deuxième étape de cette qualification, c'est toute une étape de formation. Et là encore, c'est l'industriel qui aujourd'hui est en charge de former les professionnels de santé qui vont intervenir dans ce circuit. Et donc former en particulier à la manipulation, au conditionnement du matériel d'aphérèse du côté de l'unité d'aphérèse, donc au début du circuit. Et puis à la fin du circuit, former à la réception, au stockage, à la décongélation et à l'administration finale du médicament. Troisième étape, là aussi c'est de la formation. Nous sommes en charge de former, encore une fois, tous les professionnels de santé impliqués dans ce qu'on appelle, d'un point de vue réglementaire, le plan de minimisation des risques. En pratique, c'est la gestion des effets indésirables, hein, du médicament. Et donc ça, c'est l'équipe médicale, donc mon équipe chez Gilead, qui réalise ces formations qui concernent de très nombreux professionnels de santé différents au sein de chaque hôpital. Et puis, la qualification se termine par des tests à blanc. Donc, pour être sûr que tout le monde est bien au fait et a bien compris des manipulations à faire, on fait deux tests à blanc. Un test à blanc, donc avec une poche qui ne contient pas de cellules, mais simplement de l'eau. Hein. Un test à blanc d'expédition des cellules depuis l'unité d'aphérèse. Et un test à blanc de réception d'une poche de cellules, enfin d'eau en l'occurrence, congelée, soit par l'unité de thérapie cellulaire, soit par la pharmacie, en allant jusqu'à la décongélation et la simulation de l'administration aux patients. Et c'est seulement quand toutes ces étapes ont été réalisées et validées avec notre équipe qualité que le centre est considéré comme qualifié et donc habilité à administrer un CAR-T à un premier patient. La suivante, s'il vous plaît. Donc, on l'a déjà beaucoup dit, mais je le répète, hein, c'est vrai qu'il y a énormément d'interlocuteurs différents concernés dans un hôpital pour arriver à cette qualification et à ce que ce circuit du médicament soit absolument parfaitement réglé. Bien sûr, l'objectif, hein, vous l'avez tous bien compris, c'est un, assurer une traçabilité parfaite, hein, c'est une poche de cellules pour un patient, Et deux, assurer une parfaite coordination et en particulier qu'il n'y ait aucune rupture de la chaîne du froid dans tout ce trajet de la poche de cellules. Donc on en a beaucoup parlé à droite, bien sûr, le service d'hématologie, l'unité d'aphérèse, l'unité de thérapie cellulaire, la pharmacie et toutes les unités de soins qui vont prendre en charge les éventuelles complications, donc la réanimation, la neurologie, les infectiologues aussi qui peuvent être impliqués. Mais il n'y a pas seulement, je dirais, les professionnels de santé, il y a aussi tout ce qui est direction de l'hôpital, donc tous les administratifs de l'hôpital, la direction juridique, le responsable qualité, et également le responsable informatique, puisque Jérôme Larguero l'a mentionné, nous mettons à la disposition de tous les centres hospitaliers un logiciel dédié qui leur permet à la fois de passer la commande puis de suivre la poche de cellules tout au long de ce circuit. Et donc ce système doit être intégré dans le système informatique de l'hôpital. Donc voilà, la parfaite coordination entre tous ces acteurs est vraiment clé pour le succès. La suivante, s'il vous plaît. Alors, juste brièvement, pour vous rappeler le calendrier d'accès alors de notre médicament, mais celui de l'autre laboratoire a été assez similaire en termes de chronologie. Donc on a eu la chance de pouvoir donner un accès très précoce aux patients français grâce à la mise en place d'une ATU de cohorte. ATU de cohorte qui a pu démarrer dès le mois de juillet 2018, donc avant même l'AMM européenne initialement à Saint-Louis. Hein, donc c'est vrai que Saint-Louis... ont été les pionniers dans ce domaine. Cette ATU de cohorte qui a été gratuite pour notre part a duré jusqu'à la fin de l'année 2018 et nous a permis de traiter les 41 premiers patients français donc pendant cette période de quelques mois. Ensuite, nous avons bien sûr été évalués par la commission de transparence et nous avons obtenu une ASMR innovante, donc une ASMR de niveau 3, ce qui nous a permis ensuite d'aller au CEPS et de négocier le prix de notre médicament. Et donc, dès le début de l'année 2019, nous sommes passés en phase post-ATU, puis commerciale. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de patients traités dans le cadre de cette phase post-ATU. La suivante, s'il vous plaît. Nous avons progressivement augmenté le nombre de centres qualifiés. Hein, donc, on l'a dit, on a commencé avec un centre à Saint-Louis, puis très rapidement, pendant la phase d'ATU, on a eu 6 centres. Et aujourd'hui, nous en sommes à 9, donc qualifiés pour notre médicament, hein, puisque vous l'avez bien compris, la qualification est spécifique à chaque médicament. Nous avons essayé effectivement d'assurer un certain maillage territorial pour permettre un accès à tous les patients français, quel que soit leur domicile. Il y a bien sûr encore des progrès à faire. Donc, il y a plusieurs centres qui sont actuellement en cours de qualification et d'autres qui viendront en 2020 de façon à rapprocher le plus possible les patients des centres dans lesquels ils vont pouvoir être traités. Donc, ça, c'est pour les centres qualifiés. La suivante, s'il vous plaît. Par ailleurs, pour... favoriser l'accès des patients français. Il est également très important d'avoir des essais cliniques en France. C'est aussi un très bon moyen de donner un accès précoce aux patients français. Et donc là aussi, nous avons aujourd'hui 11 centres français qui sont impliqués dans au moins un, voire souvent plusieurs essais cliniques, dont 3 en pédiatrie. Et donc à ce jour, nous avons 60 patients français inclus dans l'ensemble de ces essais, qui couvre le lymphome B diffus à grandes cellules, qui est l'AMM actuelle de notre médicament, mais qui couvre aussi d'autres pathologies hématologiques malignes, qui sont donc d'autres types de lymphomes, le lymphome du manteau, le lymphome indolent, la leucémie aiguë lymphoblastique, à la fois de l'adulte et de l'enfant, d'où la présence de centres pédiatriques, et également la leucémie lymphoïde chronique. Donc, progressivement, d'autres pathologies qui vont pouvoir bénéficier, du moins on l'espère, de l'efficacité des CAR-T. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, je terminerai sur cette diapositive pour vous dire, ça a déjà été annoncé, que ben justement, pour essayer de raccourcir ce cycle de 30 jours entre le prélèvement du patient et l'administration finale du médicament, nous avons désormais un site de fabrication en Europe qui est localisé à Amsterdam, qui va commencer à pouvoir produire en début d'année prochaine, donc qui aujourd'hui n'est pas opérationnel. Et l'objectif, c'est qu'à mi-année 2020, tous les CAR-T pour tous les patients européens, dont les patients français, bien sûr, soient fabriqués en Europe sur ce site de production à Amsterdam, ce qui nous permettra de gagner du temps dans la phase de production des CAR. Voilà, je vous remercie.
Merci pour ce topo très clair et qui, effectivement, donne là aussi, tout ça est positif, pour revenir aussi à toutes les réponses que vous avez formulées, donc au topo de Guy Bouguet, qui malheureusement n'est pas présent ce jour. Je voudrais repasser la parole à Christian, avant de passer la parole à la salle, passer la parole à Christian qui va faire une sorte de conclusion sous forme de consolidation, donc positive sur le futur. Donc, si vous voulez bien reprendre le topo de Christian.
Les trois dernières diapos, s'il vous plaît. Oui, donc on avait préparé avec Patrick Fallet trois diapos pour un peu conclure non seulement cette session, mais un peu toute la matinée qui, je pense, a été assez riche. Pour ceux d'entre vous qui étaient présents l'année dernière, et sans vouloir empiéter sur les prérogatives des organisateurs, mais je pense que ce qu'on voit, c'est que les choses avancent assez vite. L'accès au CAR-T-cell, c'est possible pour les patients français. Et sans aucune flagornerie, je pense qu'il faut quand même souligner le rôle tout à fait important des tutelles sanitaires françaises, du ministère de la Santé, des différentes agences qui permettent effectivement à ce que les patients français puissent aujourd'hui avoir un accès aux CAR-T-cells commercialisés. La France fait partie des pays européens les plus en avance, les plus actifs dans ce domaine. Alors, naturellement, la situation n'est pas stabilisée. C'est une organisation qui est encore en train de se mettre en place. Il y a énormément d'interrogations à venir, à la fois sur les aspects purement médicaux, la réalité du service rendu, la stabilité de la réponse sur des durées prolongées. Alors, dans le lymphome, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a aux alentours de 40-45% de survie en plateau. On a vu que dans le myélome, les résultats sont quand même nettement moins attractifs pour l'instant pour ce qu'on a. Et clairement, ça va poser des questions parce que ce n'est pas du one shot, là. 400 000 euros un médicament pour lequel il faudra de toute façon retraiter par la suite. Ça ne se négocie pas de la même façon que 350 000 euros pour un traitement qui, éventuellement, au moins sur une proportion de patients, va induire une guérison. D'un point de vue strictement organisationnel, l'organisation actuelle, c'est pas complètement inédit. Mais si on y réfléchit, il y a des maternités de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Chacune dispose de compétences qui lui permettent de faire face à des situations plus ou moins complexes. Il y a des centres de ressources et de compétences pour un certain nombre de pathologies rares qui sont mis en place. Et finalement, on est assez sur ce scénario. Ce qui est assez inédit, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, comme cela vient d'être redit, participent à la qualification des centres. Mais que par ailleurs, on sélectionne un nombre restreint de centres pour une mission médicale très particulière, c'est pas quelque chose de complètement inédit dans notre pays. La question, c'est le paysage actuel qui, grosso modo, est à une dizaine, et on peut penser assez rapidement, peut-être proche de 15 centres actifs. Est-ce que ça va suffire à couvrir les besoins français si ces besoins, en particulier, s'étendent vers de nouvelles pathologies, vers de nouveaux groupes de malades? Si les essais sont conclusifs dans le lymphome quant à la substitution des CAR-T-cells à l'autogreffe, c'est pas un petit filet d'eau là qui va s'écouler, c'est d'un seul coup, ça va être un robinet pleinement ouvert là. Il va falloir faire face. Il y a des tas d'infrastructures hospitalières qui sont fragiles, les unités de Citaférès par exemple, qui auront de la peine à assurer l'impact d'une augmentation d'activité. La suivante, s'il vous plaît. Il y a donc pas mal de challenges qui nous font face. Et puis, naturellement, encore une fois, il y a le problème des ressources financières. Non seulement le prix des médicaments, mais encore une fois, l'organisation hospitalière qui est nécessaire et l'organisation périhospitalière. La remarque de Guy Bouquet dans son diaporama, elle est complètement pertinente. Encore une fois, ça a un impact fort sur le malade, mais aussi l'entourage familial qui doit se déplacer pour l'instant vers un centre de référence. Les pédiatres savent gérer ça. Hein, quand ils ont des enfants qui font venir de très loin, ils font venir les parents avec, ils sont capables d'organiser leur hébergement, etc. Va falloir inventer tout ça, probablement, dans le domaine des CAR-T. Je ne sais pas s'il en a une troisième ou pas. Je ne me rappelle plus. Non. Merci beaucoup.
Merci pour ces interventions brillantes. Et maintenant, si vous voulez bien, on va passer la parole à la salle. Il y avait quelques précisions de parmi les personnalités qui ont été citées par Christian, notamment, il y a quelques... Si vous voulez prendre la parole. Tout est clair. Tout le monde est en hypoglycémie.
Juste peut-être une chose que j'ai oublié de dire, mais qui est importante. L'autorisation maintenant des hôpitaux par la puissance publique va se faire au niveau régional. Ce sont les ARS, les agences régionales de santé, qui sont en charge de vérifier la conformité de l'organisation des hôpitaux au texte de l'arrêté que j'ai mentionné. Et non pas, c'est non pas une tutelle nationale. Hein, ce n'est pas la NSM qui va venir chez vous pour ça, etc. Donc c'est les ARS. Alors je sais qu'il y a des initiatives pour coordonner l'évaluation des ARS et limiter l'hétérogénéité, mais c'est un point sur lequel il faudra être attentif, puisqu'on sait qu'à partir du moment où on décentralise des missions, il y a un risque éventuellement de petites différences dans le processus d'évaluation.
Écoutez, s'il n'y a pas de questions, Michel, permets-moi d'abord de remercier la salle. Et puis je voudrais aussi surtout, bien évidemment, remercier nos intervenants et avoir une pensée amicale pour Guy Bouguet, bien évidemment. Donc merci aussi à vous d'être là. Et je te passe le micro, Michel.
Merci. Donc moi, je suis en charge de faire la conclusion. Donc je ne vais pas remercier les intervenants, mais je voulais quand même les remercier d'être venus de loin, quand même, d'avoir pris de leur temps pour être fidèle finalement à nos focus. Les équipes groupe profession de santé, Damien et Mélanie, dans la salle du quotidien du médecin, du quotidien du pharmacien. Vous retrouverez leurs articles dans quelques semaines. Fabienne, Coralie, au tweet au fond. Nos partenaires Gilead, Novartis, qui nous ont soutenus sur cette opération et sur d'autres. Vous retrouverez les vidéos et les articles donc, sur les sites du QDM dans quelques semaines. N'oubliez pas de remplir les questionnaires de satisfaction. Prochain point, les rendez-vous au RCFR les 26 et 27 novembre à Paris. Et pour notre dernier focus sur la vaccination, le 12 décembre, avant Noël. Et puis enfin, un cocktail nous attend. C'est ce qui est le plus important, finalement. Le cocktail au-dessus, quand vous prenez l'ascenseur ou l'escalier, c'est au-dessus, à droite. Enfin, vous trouverez. Bon retour à toutes et à tous, et merci encore.